merci, monsieur, de votre exposé. Sur des sujets difficiles, vous avez fait un exposé clair. Et puis, je n'avais pas abusé des analyses techniques. Mais donc, moi, personnellement, je me réjouis de voir qu'il y a une continuité dans la journée malgré tout. Et qu'en particulier, c'est vrai que l'histoire de la langue et l'histoire de forme poétique ou littéraire est souvent une interdépendance forte, mais la difficulté, vous avez prudemment à la fin envisagé une deuxième solution, et peut-être qu'il y a aussi des changements dans les goûts littéraires, dans les genres, etc. Ce qui fait que, si je veux dire, les solutions ne sont jamais uniques en la matière. On sait qu'il y a des lectures fausses, par contre on n'est jamais sûr de quelles lectures sont vraies. Voilà, pour le dire autrement. Bon, je vous remercie beaucoup, monsieur. Peut-être qu'après ces trois exposés nutritifs, le public veut s'abreuver cette fois-ci à ses propres questions. Monsieur Meyer.
Pour votre chaîne, non ? Je voudrais poser une question à Benoît Cazin sur le cursus rythmique. Parce qu'il y a une question que je me pose. Est-ce qu'il y a un seuil statistique de fréquence du cursus qui permet de dire que tel auteur manifestement le recherche ou pas ? Alors je me pose la question parce que pour le texte dont j'ai parlé ce matin, les spécialistes en général disent qu'ils ne s'intéressent pas au cursus rythmique. Il y en a quand même. Il y a 34%. Le cursus sur l'ensemble des cadences finales. Alors la question que je me pose, est-ce qu'on doit dire, c'est dû au hasard, ou est-ce qu'on... Parce que je n'ai pas fait l'étude en détail, mais si on analysait en particulier ces passages-là où il y en a, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, tiens, c'est un ornement supplémentaire dont il use avec modération, parcimonie. Alors, voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a un seuil statistique qui permet d'aller dans un sens ou dans l'autre.
Alors, pour répondre rapidement, parce que le problème est compliqué, il y a certainement une statistique qu'on peut, disons, chaque historien voudra déterminer plus ou moins clairement, mais quand il est très utilisé dans des styles de chancellerie comme ceux dont j'ai parlé, c'est vraiment une proportion très haute. Deux facteurs retardant tout de même pour une compréhension saine de ces données. D'abord, les méthodes de comptage du cursus ont changé considérablement ces 40 dernières années, et on est passé à 4 stades de raffinement successifs, et on peut se demander quel est le meilleur, parce que c'est pas facile à savoir, ça pose un problème. Ensuite, les gens ne parlent pas tout à fait de la même chose quand ils comptent le cursus, parce que comme j'y ai rapidement fait allusion, la plupart des spécialistes sont très intéressés par le 12e siècle, qui est une époque de grande variation, et ils sont intéressés à trouver des différences, et donc ils intègrent par exemple des comptes de cursus Trispondaïque qui ne fait pas partie du standard. Et étant donné que ces formes sont relativement banales en pause dans une phrase latine, dès que vous intégrez non plus 3 mais 4 ou 5 possibilités, vous allez tomber sur des vraisemblances de hasard statistique, parce qu'on va retomber quasiment sur les 2/3 des possibilités normales de terminaison statistique de la langue latine. Tout ça pour dire que, malgré tout, les seuils, selon une méthode de compte traditionnelle qui, à moi, me plaisait très bien, avant les raffinements de Janson et tout, qui était encore celle de Gudrun-Lindholm, on aboutissait à des moyennes extrêmement hautes, de type 95%, pour les styles dont j'ai parlé, mais les spécialistes les meilleurs de nos jours nous diront mais il ne faut pas du tout utiliser ça, utiliser d'autres choses avec des problèmes de comptage de texte. J'avoue que moi je fais mon bricolage, c'est-à-dire que je sens plus ou moins dans mes analyses si on est dans un style très haut ou pas. C'est aussi une question d'institution, et puis après je me lance tranquillement ou non. Je ne suis pas dans un travail statistique dans le travail que je fais là, je suis vraiment plutôt dans un travail de repérage lexical. Mais oui, si on met la barre très haut, on peut trouver sans problème des endroits où on peut dire oui, usage prédominant. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est cibler les dix pauses évidentes où on attendrait du cursus et il n'y en a pas sur un long texte, et dire que ça n'est pas du vrai cursus parce que le type n'a pas respecté 10 fois sur 1000. La chose, ce n'est pas l'esprit de ce genre d'ornementation, d'avoir une régularité absolue. Pardon, Pascal.
Il y a aussi des éditions mal ponctuées.
En plus, oui. Il ne faut pas se fier à la ponctuation moderne, ça c'est sûr.
Il y a des exceptions à chaque fois. Il y a d'autres choses aussi. On vous vous entendant parler, vous avez donné des listes d'exemples. Ce qu'on voit, c'est que les rédacteurs finissent par avoir non seulement le rythme, mais des blocs de syntaxe même qui sont tout prêts. Et ça me rappelle quand même que ceux qui composaient les distiques et les diacres avaient en fait des rythmes, avaient, comme Ovid, il avait déjà dans la tête, comme Victor Hugo avait ses rimes, Ovid avait des blocs de vocabulaire qui se coulaient naturellement dans le rythme final fixe quand même de l'hexamètre et du pentamètre. Apparemment, là, il y a une espèce d'outillage qui se constitue. Et je suppose d'ailleurs que les années d'apprentissage consistent en fait à apprendre cette espèce de solfège intérieur, mais qui n'est pas que la musique, c'est carrément les blocs de mots, parce que c'est presque toujours un certain type d'expression qu'il y a aussi.
Toute une partie du travail est ramener cette prose un petit peu plus près de problèmes de versification, même si on reste dans la prose. Après, on peut trouver des équivalences. J'en profiterai juste par insiste pour revenir sur quelque chose qui a été dit ce matin, sur lequel je suis assez en désaccord. Je ne pense pas que du point de vue du rythme, on doive absolument trouver des modèles de différenciation par contraste dans des civilisations plus ou moins lointaines. Pour ces techniques de prose rythmée, on a des équivalents extrêmement spectaculaires en arabe classique. Alors, en arabe classique, c'est de la prose rythmée et rythmée, parce qu'on n'a pas ce phénomène dont Pascal Bourguin parlait, d'exclusion tendancielle qui est assez et impressionnant effectivement en latin au 12e, 13e, mais c'est tout de même aussi de la prose rythmée, pas rimée, et on a évidemment le même genre de phénomène d'utilisation dans le même contexte, mi-politique, mi-littéraire, de semi-standardisation de formules, de conformation.
Oui, c'est tout
à un niveau qu'on veut, si on peut faire un tout petit peu de fonctionnalisme, pardonnez-moi le gros mot pour certains, on peut retomber sur des équivalences qui sont très intéressantes au niveau des proses traditionnelles de nos Moyen-Âge. Je ferme la parenthèse.
C'est pareil pour le grec. Oui, absolument, absolument. Oui, c'est un outillage.
Et ça correspond à quelque chose d'avoir cette prose très solennelle. C'est un moment institutionnel,
une façon de
politique,
cognitif. Oui, c'est ça, il pense le monde à travers ça, je pense.
Et on a les mêmes clichés en arabe de nos jours, dans le monde moderne, quand il y a eu la renaissance arabe littéraire. Ils avaient fait cette prose rythmée partout, ils étaient devenus crétins, ils ne pouvaient pas penser autrement. Non, c'est effectivement un peu primitif de penser que quand on écrit comme ça, on écrit de manière trop formatée.
C'est un espèce de langage qui peut circuler aussi. Je vous en prie.
J'avais une question pour Pascal Bourguin sur tous ces modèles de rythme. Où est-ce que ça s'apprenait? Comment on enseignait?
Bien, il y a certaines figures qui sont enseignées parce qu'on les trouve soit dans les manuels antiques, soit reprises ensuite dans les parties poétiques. Mais l'essentiel du rythme, je pense qu'il est... ce qui fait rythme le plus pour nous, c'est l'imitation. Alors, Saint-Augustin, Saint-Isidore de Sibylle, Saint-Grégoire le Grand. Après ça, et tout ça, ensuite, c'est ceux-là qui servent de source primaire. Ensuite, on a les réalisations Adelme, très admirées au 10e siècle, même sur le continent, pas seulement en Angleterre. Et puis, après ça, je pense qu'il y a aussi une fascination de certains auteurs, comme, alors, on a imité Saint-Bernard, on a imité l'île de Saint-Victor. Cette langue de l'île de Saint-Victor a découlé par certains côtés qui n'est pas montré, hein, qui est un modèle de construction qui pouvait être très, très construite, mais en un sens très sèche. Et ça convenait mieux à certains aspects de la langue cérébrale, celle qui va devenir beaucoup plus plate, celle du siècle suivant. Et on a continué à imiter. Par contre, les textes spirituels ont été imités jusqu'au XIVe siècle par les auteurs mystiques, qui continuent, qui visiblement, ce qu'ils disent, c'est Anselme de Canterbury. Il y a qu'à voir aussi le nombre des manuscrits. Hein. Qu'est-ce que vous avez sur les rayons des bibliothèques? Vous avez Anselme, pour ces auteurs-là, vous avez Anselme de Canterbury, énormément, hein, les méditations elles sont partout, et vous avez énormément de livres de Saint-Victor. Eh bien, les auteurs qui lisent ces textes-là vont continuer. Et par contre, ceux qui vont se précipiter pour faire leurs études sur... Les grands auteurs scolastiques n'auront plus tendance du tout à écrire comme ça, sauf éventuellement dans certains cas.
Le rythme se perd.
Mais, et le rythme, le rythme se perd, parce que ce n'est plus, alors ce n'est plus ce caractère oral de la phrase, c'est une phrase intellectuelle, en partie, dans certains cas. Bon, bien entendu, Saint Thomas même peut toujours glisser quelque chose.
Ce que je pensais, c'est au développement des procédés rythmiques en cerveau moderne, à la même époque.
Alors les cerveaux,
c'est en partie, sont capables de quelque chose.
Les cerveaux, si vous voulez, reprennent, c'est de la littérature d'édification, donc c'est un certain type de texte, et c'est une littérature qui a quand même vocation, même si elle est prononcée dans une langue. Je ne peux pas dire vernaculaire, parce que...
mais... Si, c'est en français, voilà.
En français, oui, mais si vous voulez, ça vaut pour tout.
Ah ben, un italien, c'est un italien. Ah, ou alors un roman, c'est vraiment...
Alors, oh, un italien, français,
c'est pas grave. Oui, il faut faire un effort. Faut pas parler comme les clercs qui disent tout ça,
c'est même, mais c'est... De toute façon, dans ces cas-là, certains schémas hérités continuent à survivre. Hein, et continuent à survivre, ils peuvent être hérités, ils peuvent être réutilisés, les mystiques les utilisent, ça c'est normal, ça continue. Donc je pense que c'est par imitation, par imprégnation. Hein, et il faudra, en un sens, regarder ce qu'il y a sur les rayons des bibliothèques, là où écrivent telle ou telle personne. Ça ne sera pas tout, mais c'est un élément.
C'est nécessaire pour apprendre à parler comme il faut. Allez au forum, allez écouter. Allez écouter. Bon, moi, qu'est-ce que je me questionne moi pour réfléchir ? Non, juste petite remarque, c'est, vous avez parlé des pseudo-pères d'Augustin, mais j'ai trouvé beaucoup de passages très lyriques et justement très rythmés dans les confessions.
Oui,
en particulier la grande prière finale.
Moi, j'ai sorti un exemple de pseudo-pères, mais il y en a de centaines dans les confessions.
Dans les sermons, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a aussi cette respiration. C'est, alors là,
Et lui, sûrement que ça, oui, il savait déménager les pauses. Hein,
oui, mais Grégoire Le Grand aussi. Enfin,
Grégoire Le Grand aussi, non, mais c'est les tout grands, ceux-là. Et on n'a pas imité le style de Saint-Jérôme. On a imité Saint-Augustin.
Jérôme. C'est vraiment tout petit. Très savant, le raisin tout petit. D'autres questions?
Alors, j'en conclue que lorsqu'on écrit bien, on n'est pas un empathique.
Tout
il y a un lien,
absolument. Absolument. Non, non, Jérôme, que c'est vraiment un oiseau. Voilà. Pour le, donc, vous aussi passe des questions aussi donc, sur le rythme du vers, de langue d'oïle, vernaculaire. Moi, j'ai quelque chose à dire tout de suite. Je dois dire, je ne connaissais pas vos travaux et je suis tout à fait enchanté de vos observations. Et je. Attends, il y a quelque chose qui me fait beaucoup. Ça fait maintenant 23 ou 4 ans que je n'enseigne plus latin à l'université, mais l'ancien français. Bon. Et alors, du coup, je m'occupe quand même du vers la chanson de Roland, du vers la cathédrale Saint-Élie, puis du vers de la classification de Guillaume de Machaut, puisque vous savez qu'à la grecque, on sait tout, donc il faut aller des origines au 15e siècle, etc. Vous savez, le Moyen-Âge, c'est quelque chose. Et alors, quelque chose qui me fait maintenant que je suis vieux un peu ricané, c'est le vers français, histoire du vers français. Je trouve que ça n'a pas de sens, en fait, parce que, vous l'avez vu, on ne se connaissait pas. C'est-à-dire que je pense vraiment, vous avez tout à fait raison de souligner le caractère rythmique des premiers vers, et quand nous récupérons le texte, il faut bien voir qu'ils sont déjà en évolution vers le système syllabique. Nous n'avons pas l'état initial pur, on l'a un petit peu dans le texte que j'ai tenté de vous montrer ce matin, ou peut-être dans le Cormon Isambard. Parce que si c'est un octosyllabe, ça raconte la même histoire que le Pixlin, c'est très probablement un texte très vieux. En fait, et comme par hasard, il est octosyllabique, il est très rythmé, et donc il reprend à la fois le truc germanique et le climat iambique en bronzième, etc. Bon, mais pour vous mettre un petit peu d'or dans cette histoire après, je pense que donc, après le latin classique, accent doux et musical, on a un latin tardif, accent fort, dans le nord. Donc en Gaule du Nord, je pense que l'accent est devenu très fort, et puis cet accent très fort a duré jusqu'au 11e, 12e, 13e siècle. Mais je pense que quand on parle de français moderne, il faut faire attention, parce qu'à mon avis, il y a une étape intermédiaire, c'est de 1300 à, disons, 1800, C'est l'époque du français moderne, on a certainement encore un accent par mot, mais il est plus faible. Il faut attendre le français parlé contemporain, étudié par Martinet, par Rossier, tout ça, pour qu'on ait plus un accent de groupe de mots. Mais en français moderne, moi je distingue bien entre 14e, 18e, et après, disons, 19e, 20e.
Je peux juste préciser pourquoi je...
Oui, oui.
Bon, je... Au fond, je sais pas si j'ai raison d'assimiler, c'était qu'on a déjà l'accent d'un français moderne au XIVe siècle, c'est très difficile à savoir.
Et plus doux,
ouais.
C'est un accent plus doux.
Mais ce qu'on a, le seul truc qu'on a, c'est le premier traité qui raconte à quoi ressemble l'accent du français, date du XVIe siècle. C'est déjà plus tard que l'époque médiévale, mais le système qu'il décrit, bon, c'est un Anglais qui l'écrit, c'est Paul Scrive, qui vient en France, qui veut enseigner le français aux Anglais et essayer de décrire aux Anglais comment prononcer comme des Français. Et il dit des choses comme... Bon, ils mettent jamais un accent sur des mots, tant de syllabes, ils mettent l'accent plus fort avant un point, c'est-à-dire à la fin d'un groupe. Et quand on regarde sa terminologie, ce qu'il est en train de décrire, c'est un système... J'ai comparé ce que dit Paul Scrive avec ce que dit un linguiste du XXe siècle, qui a exactement le même but, c'est-à-dire d'expliquer aux Anglais comment prononcer à la française. Et ils font quasiment les mêmes observations sur la langue. Est-ce que ça veut dire que c'est le même accent, voilà. Oui, on est dans des domaines difficiles, mais les indices indiquent que même au XVIe, on était assez proche du système moderne.
Ça, c'est possible. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je distingue fortement entre l'ancien français classique, proprement dit, et l'ancien français, moi je dis tardif, mais on peut dire moyen ou autre. Après, à 1300, il y a vraiment un grand, à tous les niveaux, la langue change, elle même tout change. Je dirais le français moderne, néo, au 13e ou 14e siècle. Et je crois qu'il y a vraiment une mutation de l'accent. Pourquoi c'est comme ça, moi je ne sais pas. Quelqu'un le saura peut-être un jour, mais l'évolution s'infléchit et s'inverse. Et je dirais qu'aujourd'hui, elle est arrivée à son terme. Parce que, pas pour moi, qui du sud est l'accent du mot individuel, vous savez, c'était pour la diction des parisiennes courantes et réelles, vraiment, c'est un accent qui apparaît au terme de bloc, groupe de mots. Alors, est-ce que c'était comme au 16e? Ça, après, moi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Mais autrement, je crois tout à fait à cette fluctuation. Et je suis bien entendu de dire que les premiers textes étaient rythmiques tout autant que syllabiques. C'est vrai que sinon, qu'une syllabe, ce n'était pas si grave que ça. Et le fait aussi que le muet ne compte pas après la tonique, c'est normal, puisque c'est le pic accentuel qui compte.
C'est-à-dire, on a exactement les mêmes problèmes avec les poèmes rythmiques latins de la même époque. C'est exactement les mêmes questions qu'on peut se poser devant leur notation et devant leur... Et devant le compte, et on arrive à une certaine régularité que de deuxième moitié du XIIe siècle. Avant ça, effectivement, il y a peut-être même moins de régularité de l'accent à l'intérieur des mots que plus tard.
Oui, c'est tout ça.
C'est la même chose ou ça se passe un peu?
Il y a sûrement un âge ancien, 7e, 10e siècle, et puis après, il y a cet ancien français classique qui ne dure que 2 ou 3 siècles, quoi, disons. Et encore. Voilà. Mais de toute façon, vous savez, toutes les langues sont toujours en mutation, on peut dire, une plénitude. Le verbe latin classique est une mutation du verbe saturnien. Voilà. Donc,
c'est une importation, surtout.
Non, mais il n'aurait pas pu importer le latin classique, le verbe latin classique, s'il n'y avait pas eu dans le latin parlé un accent musical et solution d'antiquité.
Oui, d'accord, mais enfin, ils n'ont pas pris de la crise de Jupiter, ils n'ont pris de la Grèce.
Mais personne. Oui, les Grecs, ils n'ont pas l'eau. Non, ils ont importé l'hexamètre, mais ils n'auraient pas pu l'importer, c'est-à-dire faire franchir le pas, s'il n'y avait pas eu la possibilité de faire un système phonologique du latin. Ça, sinon, on aurait aussi. C'est pas possible, ça, tu vois ce que je veux dire, bien sûr.
Mais il y a d'autres exemples, je veux dire. Arrivé en Iran, ils ont pris le verre arabe qui est métrique. C'était pas métrique pour dessous,
mais ah, dessous. De toute façon, tu sais, le verbe de verbe, le vals, le mélancolique, le langue vertige, le verbe de Baudelaire, est-ce qu'il est syllabique J'ai une discussion amusée parfois avec le prof de Cagne qui compte les accents. Bon, voilà. Est-ce d'autres questions? Si le public est encore en état de fonctionnement.
On va peut-être faire la pause café, si vous voulez bien.